CQ, épisode spécial là, sur la compagnie de David. Comment vas-tu?
Très bien, toi-même.
Très bien aussi. On continue un peu. Là, on a un peu de misère à setter notre enregistrement. On avait abordé le Dark Web la dernière fois. Là, on aborde la notion de réseau, qui est très intéressante parce que, comme tu peux m'expliquer un peu en quelque chose, c'est la façon d'analyser une situation sur la base des informations et comment on les lie entre eux autres. Donc, de tirer des analyses et de voir comment ça se passe. En criminologie ou en cybercriminologie, c'est super intéressant parce qu'on va être capable d'amener à des réflexions qui sont peut-être non intuitives et nous amener ailleurs dans nos réflexions, donc d'aider les organisations à avancer ou aider à comprendre le milieu. Je vais te laisser là-dessus parce que je ne suis pas super habile, fait que c'est un meilleur maîtrise du sujet que je suis.
Oui, ben merci. En fait, je pense que la première chose qui est importante à expliquer, c'est le fait que chaque personne va voir le monde selon un certain prisme, selon certaines références, et on s'arrête pas nécessairement très souvent pour se demander comment est-ce que je vois le monde, c'est quoi ma vision. Mais c'est quand même quelque chose qui est assez important. Puis quand on regarde en cybersécurité, on va voir des gens qui vont voir le monde à travers, en fait, des aspects techniques. Ce qui voudrait dire, par exemple, c'est quoi mes indicateurs de compromission? Est-ce que j'ai des ports qui sont ouverts? Donc, un aspect, une vision, en fait, du problème de la cybersécurité qui est très mécanique, si on veut. Au cours peut-être des dernières années, on a vu une nouvelle perspective qui était tout l'aspect humain de la cybersécurité. Et là, de se dire, ben en fait, on peut avoir les meilleurs systèmes au monde. L'humain, il reste toujours le maillon faible. Comment est-ce que finalement un délinquant ou un criminel va s'attaquer à nos réseaux? On essaie de comprendre les individus à l'intérieur de nos organisations qui deviennent victimes ou encore de comprendre les délinquants qui s'attaquent à nous. Puis ça, c'est deux visions, deux approches assez distinctes puis également intéressantes, je dirais. Il y en a peut-être une troisième dont on parle beaucoup moins, c'est celle des réseaux, et de se dire, ben en fait, on n'a pas besoin de savoir est-ce que mon système est sécuritaire ou non. On n'a pas besoin de savoir qui essaye de m'attaquer. Ce que j'essaie de comprendre, en fait, c'est dans quel réseau est-ce que je suis et quelle est ma position, quel est mon rôle dans ce réseau-là. Et ici, souvent les gens instinctivement, tu sais, si je te dis réseau, si on joue un petit jeu d'association, je suis convaincu que tu me dirais, ben réseau, c'est qui parle à qui, des réseaux d'acteurs. On est habitué avec ça, avec les réseaux sociaux, Facebook et autres, Instagram. Mais il faut voir, en fait, que les réseaux sont partout autour de nous. Puis une des choses que j'enseigne qui est vraiment fascinante, en fait, c'est le fait que les mêmes règles, les mêmes forces, en fait, s'appliquent à des réseaux de planètes, de fourmis, de cyberdélinquants. Il y a des choses, en fait, dans l'univers qui font que les réseaux vont guider, vont façonner, en fait, notre réalité. Et ici, on peut créer toute une panoplie de réseaux. Puis je vais peut-être t'en donner une dont on parle peut-être pas assez souvent, mais par exemple, une des choses auxquelles on s'est intéressé, c'est de voir quelle compagnie était visée par quel délinquant, donc de faire un réseau de quel délinquant vise quelle compagnie, et de voir est-ce que les délinquants visent une même série d'entreprises. Donc, si on voit beaucoup de délinquants qui s'attaquent, par exemple, à la banque A, mais aussi à la banque B, mais jamais aux autres banques, probablement que ces banques-là ont des systèmes en commun, ils ont des aspects, en fait, qui les unissent. Ça devient intéressant, en fait, de même mettre ces gens-là en communication puis de se dire, on dirait que tous les deux, vous avez le même problème. Peut-être qu'en vous mettant ensemble, vous allez pouvoir le régler. Donc, les réseaux, en fait, gouvernent un peu notre réalité. Puis ce que je propose aujourd'hui, puis une façon qui est intéressante de comprendre notre monde, c'est de se demander, en fait, dans quel réseau est-ce que je suis, puis quel est mon rôle, finalement.
Oui, puis ça, je trouve ça intéressant, ce regard-là, parce que autour de moi, on l'utilise peu ou pas du tout. Donc, ce regard-là, limite, dans quoi on est concentré, puis j'aime bien aimer ton introduction sur le volet technique. Puis même, à la limite, moi, mon premier réflexe, réseau, bien, on va parler d'un réseau d'ordinateurs qui se parlent ensemble comme étant une mécanique comme ça et qui va clairement trahir mes racines techniques qui sont là. Mais dans les faits, effectivement, de relier les choses comme ça. Comment on procède à ce genre d'analyse-là? Parce que là, tu parles d'une SIM, tu parles d'une source aussi. Comment on réussit à amalgamer pour établir ce dit réseau-là et justement nous aider à comprendre ces éléments-là?
Ben, en fait, la première question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'un acteur et qu'est-ce qu'un lien? Quand on a une perspective de réseau, c'est les deux grandes questions. Et beaucoup d'études, j'envie beaucoup mes collègues qui sont, par exemple, dans le monde des affaires, où on se dit qui est dans mon réseau? Ben, c'est tous les employés de ma compagnie. Puis ensuite, c'est quoi un lien? Bon, ben, qui collabore avec qui? Qui travaille dans la même équipe que qui? Fantastique problème, super simple. Dans notre monde, malheureusement, les choses sont toujours un peu plus compliquées. Ce qu'on a souvent vu, en fait, dans les recherches jusqu'à maintenant, c'est essayer de bâtir des réseaux, par exemple, dans des communautés en ligne. Donc, ça peut être sur des forums de discussion. On a une super belle opportunité. Le Forum Breach, qui était très connu, en fait, pour faciliter donc l'attaque contre les entreprises. Les données en fait privées du forum viennent juste de couler sur Internet et ça nous permet par exemple de s'intéresser à savoir bon ben qui a acheté à qui a parlé avec qui. Sur un forum comme tel, on peut avoir une douzaine de liens différents selon ce qu'on essaye de comprendre. Est-ce qu'on essaye de comprendre comment est-ce que les délinquants vont se partager des techniques, des tactiques, comment est-ce qu'ils vont se partager des outils? Comment est-ce qu'ils vont se trouver des partenaires pour attaquer des entreprises? Donc, la première question, c'est vraiment de se demander à quel réseau qui sont mes acteurs et ensuite, c'est quoi les liens que je veux comprendre? Une fois qu'on a ça, la science sur les réseaux a fait des bons assez impressionnants comme n'importe quel domaine depuis les 10 ou 20 dernières années. Il y a tout un jargon, il y a toute une série de mesures qui ont été inventées pour essayer de décrire quelque chose d'extrêmement pointu. Mais à la base, je dirais que les questions les plus intéressantes, en fait, c'est toujours de se demander qui est central dans un réseau. Et ici, ben, qui est central dans un réseau, c'est assez simple, en fait. C'est celui qui parle au plus de personnes ou qui est connecté au plus d'acteurs. Celui qui est capable de contrôler les flux d'informations ou celui qui va être le plus proche des autres. Donc, différentes approches qui peuvent être utilisées. Mais encore une fois, on essaie toujours pour commencer de délimiter un peu son réseau et de se dire, bon, ben, c'est quoi mon problème que j'essaie de résoudre en ce moment et quelles vont être les meilleures données pour y arriver.
Donc, ça te prend vraiment une bonne définition de base, sinon tu risques de te perdre en chemin, parce que je pense que, comme tu le mentionnes très bien, il y a tellement de facettes qu'on peut aborder avec les mêmes informations que tu n'es pas capable nécessairement d'arriver si tu ne focuses pas sur un élément très défini ou une question très définie sur laquelle, puis ensuite, de cette question-là, tu vas... là, j'essaie de reprendre dans mes mots, là, tu vas essayer d'établir c'est quoi les liens entre les personnes ou entre les acteurs, là, pour être plus dans le bon jargon. Fait que là, tu vas établir les liens, la nature des liens. Donc, tu vas tout définir sur ces éléments-là. Et de celle-là, tu vas établir ton acteur principal, donc celui où le soleil du système solaire dans lequel tu essaies d'analyser.
Puis ici, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on parle souvent, par exemple, de l'évaluation du risque. On dit toujours en cybersécurité, on va surestimer des risques faibles et sous-estimer des risques très élevés. Et l'être humain est très mauvais pour estimer le pif de l'enquêteur. Là, on va toujours se dire que ah, ben, tu sais, j'ai 20 ans d'expérience, donc je dois être capable de comprendre quel est le problème, qui nous attaque, comment et tout ça. Et souvent, on manque en fait d'outils ou de mesures. Puis cette approche des réseaux-là, en fait, va nous permettre un peu de structurer notre approche puis d'arriver avec des réponses qui vont être quand même beaucoup plus solides. Puis je vais être capable de dire, par exemple, bon, ben tu t'intéresses par exemple, à qui est attaqué. Donc, quelles sont les autres compagnies qui sont visées par les délinquants qui s'attaquent à nous? Ben, je suis capable de calculer, en fait, une distance entre deux entreprises puis de se dire, les délinquants, en fait, qui s'attaquent à nous, banque A, et à un de mes compétiteurs, banque B, on est très loin, c'est pas du tout les mêmes gens. Où je peux te dire, par exemple, vous êtes très proches l'un de l'autre. Donc, naturellement, j'inviterais peut-être ces CISO-là à souper, juste qu'on jase un peu de qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on utilise, comment est-ce que nos réseaux fonctionnent. Et donc, l'objectif ici, vraiment, d'arriver avec des réponses peut-être un peu plus quantitatives, un peu plus solides, que simplement, on le voit souvent dans les publications en cybersécurité, on n'a jamais trop de certitude. On va essayer de dire, bah, c'est peut-être X, c'est peut-être Y. On a regardé ça, puis on a vu que telle personne parlait beaucoup. Comme, ben, intéressant, oui, mais laisse-moi jouer un peu avec les données, puis je peux te dire, en fait, avec objectivité, voici la personne la plus importante. Et bien souvent, ce ne sera pas les personnes qui ressortent du lot. Et ici, je peux peut-être donner un exemple, si ça t'intéresse, là, du monde criminel peut-être plus traditionnel, par exemple. Mais on a eu au Québec, par exemple, la guerre des motards. On a vu les Hells Angels qui étaient extrêmement présents et dont on a beaucoup parlé, en fait, dans les médias. Ben, on se rend compte que quand on analyse les réseaux de motards avec leurs affiliés, avec les personnes indépendantes qui travaillent avec eux, et quand on regarde, par exemple, Bob Boucher, qui a été le leader des Hells Angels au Québec, ben, quand on le place dans un réseau, je veux dire, son importance n'est pas si évidente que ça. Et c'est là où on comprend un peu plus que c'est quelqu'un qui avait une certaine influence, oui, mais qui était important beaucoup plus pour l'image que pour la criminalité qui était en train de générer, finalement. Et donc, à travers ça, on regarde d'identifier peut-être d'autres acteurs qui, eux, étaient pas mal plus intéressants à étudier, à surveiller et à comprendre que ceux qui sont peut-être un peu trop visibles, qui attirent notre attention, mais au final, qui n'ont pas un impact hyper important sur les compagnies et la société en général.
C'est intéressant. Puis dans le fond, c'est comment tu définis le lien entre les acteurs dans lesquels tu réussis à établir ce genre de constat-là. Puis j'aime bien le constat de les crimes organisés parce qu'effectivement, pour moi, ça n'était qu'une image publique qui était attaquée et non le réseau. Comme tu dis, le réseau lui-même qui a été démantelé parce que c'est pas lui qui était nécessairement le maître d'œuvre la capacité du réseau de s'organiser. Mais c'est justement les liens, comment tu établis ça?
Non, il y a plusieurs façons, puis il faut vraiment, ça c'est une super belle leçon, les réseaux là, sont partout autour de nous, les opportunités de collecter des données des réseaux, on s'en rend pas nécessairement compte, mais on a tous une quantité phénoménale de données auxquelles on a accès. Dans ce cas-ci, par exemple, ça peut être des documents de cours où on va voir qui a commis un crime avec qui. Ça peut être basé aussi sur toute l'écoute électronique. Un de mes collègues à l'université avait réussi à obtenir toutes les écoutes électroniques des motards et donc était capable de voir qui appelait qui, de qui est-ce qu'on parlait dans les conversations, puis d'avoir finalement une image quand même assez bonne de justement ce milieu-là. Mais après, dans notre monde, peut-être plus en cybersécurité, il faut voir en fait que les réseaux, c'est quelque chose qui est très présent. Ça peut être de voir, par exemple, quand on a des attaques, ça peut être de scanner des ports. Bon, ben, quelle adresse IP a scanné telle cible? Bon, on est capable de bâtir des réseaux entre, bon, ben, certaines de nos machines, certains des attaquants. Qui s'attaque à qui. Encore une fois, ça peut être des communications en ligne. Donc, toutes ces forces-là, en fait, on peut les calculer. Et ça, c'est sans compter même pour ceux qui s'intéressent à améliorer. Souvent, on va essayer de protéger nos organisations. Mais les réseaux, même un autre aspect qui est sous-utilisé, et il y a toute une littérature là-dessus, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut améliorer nos propres organisations. Donc, de regarder, par exemple, à l'interne, dans nos compagnies à nous, comment est-ce qu'on est organisé, comment est-ce que l'information va circuler à travers nos réseaux internes, est-ce qu'on est capable de faciliter la circulation de cette information-là, la diffusion des bonnes pratiques, par exemple. C'est toutes des questions qu'on est capable de se poser, puis d'y répondre bien souvent, justement, en créant des réseaux, soit entre les délinquants eux-mêmes, soit entre nous à l'interne, donc nos propres employés, et même l'interface entre les deux par moment.
De voir l'ensemble, oui. Puis de toute façon, puis j'aime bien le fait que tu parles des cybercriminels là spécifiquement, puisque c'est un univers qui a énormément changé dans les dernières années. Bon, les dernières années, il y a quand même beaucoup, mais d'un point de vue où on était plus des loups solitaires il y a quelques dizaines d'années, on va dire ça. Et à maintenant, on est passé dans un contexte professionnel qui sous-traite ou qui traite différents éléments ou qui va avec ces différents éléments-là. Des acteurs étatiques beaucoup plus présents maintenant qu'ils l'étaient par le passé. Donc, ça vient rajouter énormément de complexité. Et malheureusement, puis j'aime bien l'exemple que tu donnais avec le genre l'enquêteur, ça fait 20 ans. Oui, mais il y a 20 ans, justement, c'était pas le même milieu. Les choses ont terriblement changé. Donc, si on prend cette vieille grille d'analyse-là, c'est sûr qu'on va faire fausse route. Il faut l'adapter à une grille qui est beaucoup plus moderne, récente. Et donc, incidemment, comme tu dis, avec des outils plus appropriés, donc les réseaux.
Ouais. Exactement. Puis, tu sais, justement, il faut le voir, en fait, même nous, puis c'est peut-être un conseil particulièrement pour ceux qui commencent, en fait, dans le monde de la cybersécurité. C'est important de comprendre, même dans notre propre organisation, on est un acteur dans un réseau et de comprendre c'est quoi notre rôle, c'est quoi notre position. Et bien souvent, on se demande comment ça se fait que telle personne a toujours des promotions? Comment ça se fait que c'est lui qui a toujours les mandats les plus intéressants? Comment ça se fait que, ben, on peut se demander toujours, bon, est-ce que c'est le neveu du patron? Ça, c'est toujours l'aspect peut-être plus psychologique. Mais encore là, il y a un aspect social assez important. Mais toujours de se dire, OK, mais dans mon réseau, moi-même, dans mon entreprise, c'est quoi le rôle que je joue? C'est quoi ma position? Comment est-ce que les gens m'évaluent, en fait? Puis, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites, par exemple, à savoir, on va aller dans une entreprise, puis on va demander aux gens, quand vous avez un problème, à qui allez-vous demander conseil? Et on est capable de voir, par exemple, que ces personnes-là, que tout le monde va voir pour avoir des conseils, ben c'est peut-être elles qui vont avoir des promotions, qui vont être plus visibles, qui vont monter plus rapidement. Et donc, c'est intéressant de comprendre, en fait, quelle est la position dans le réseau qui permet d'atteindre ses objectifs professionnels. Et de se dire comment est-ce que moi je peux changer la façon dont je travaille, la façon dont je me comporte, comment est-ce que je peux me diriger vers cette position-là que je recherche qui va me donner ce que je veux. Donc, dans ce cas-ci, c'est même pas de se demander est-ce que le code que tu as généré est incroyable, est-ce que le produit que tu as développé a réalisé des ventes incroyables. On n'est même pas là, on est vraiment ailleurs. Et c'est toutes ces questions-là, en fait, qu'une fois qu'on commence à se poser, on devient peut-être comme un joueur, un grand maître d'échecs, là, un peu fou, essayer de décoder puis de voir des réseaux un peu partout. Mais je trouve que c'est une approche fascinante si on essaie évidemment de pas trop s'y perdre et de pas perdre la tête trop à l'intérieur de ça non plus.
Non, c'est ça. Puis ça demeure une grille d'analyse qu'on utilise pour avoir des choses comme ça. Il y en a pour que c'est plus instinctuel où justement les personnes vont se passer spontanément au centre du réseau. Il y en a qui ont des habiletés naturelles à le faire, où il y a des organisations qui vont se placer naturellement au centre du réseau. Donc, de devenir des monnayeurs d'informations, parce que c'est un peu ça dans l'absolu, c'est l'information qui circule et comment les différents acteurs dans le réseau vont circuler l'information, comment cette information-là se propage pour l'analyser. Justement, en parlant d'analyse, là, tu parlais de la question. Comment on choisit la bonne question pour démarrer et comment on s'adapte, parce que des fois, on choisit la mauvaise question. Et comment cela vient nous amener dans l'analyse de ces situations-là et d'aller plus loin, surtout en cyber?
Mes étudiants, en fait, ont souvent de la difficulté à arrimer en fait la réponse avec une question. Et la question, en fait, ça revient toujours à quel est le problème que tu essaies de régler. Donc, si aujourd'hui, en fait, je te parle, est-ce que c'est que tu essaies d'optimiser la performance de ton équipe? Est-ce que tu essaies de bonifier la sécurité de ton réseau? Donc, c'est quoi le problème que tu essaies de résoudre? Et à partir de là, les réseaux, en fait, vont t'offrir, c'est vraiment le canif suisse, une multitude de mesures. Et souvent, les gens, en fait, quand on va regarder les recherches, vont essayer de nous épater avec l'ampleur de leurs connaissances en sortant 22 lames différentes, donc 22 mesures différentes pour essayer de nous expliquer finalement quelle serait la solution optimale face à un problème. Mais ici, moi, ce que j'encourage les gens, c'est vraiment à garder ça le plus simple possible. Et quelque part, on va souvent se demander donc quelle est la personne clé dans un réseau qui va avoir de l'influence. On va se demander qui va avoir du pouvoir dans un réseau. Donc, il y a certaines grandes familles, peut-être 3, 4 ou 5 grandes familles, finalement, de questions qu'on peut se poser. Et à partir de là, ben, on prend une mesure qui est simple, accessible. Et il y a plusieurs outils. Je peux nommer, par exemple, GePhi, G-E-P-H-I, qui est open source, qui est gratuit, qui permet de faire des graphes. Vraiment, vous allez avoir de l'air d'un prix Nobel en utilisant un outil comme ça, qui nous permet très rapidement et très facilement, en fait, de bâtir des réseaux et de les afficher. Puis je pense qu'on naturellement, on a quand même un très bon instinct. Donc là, j'ai pas de réseau à te partager ni à nos auditeurs. Mais quand on voit un graphe avec des points qui sont reliés à des lignes, naturellement, on va regarder, bon, mais qui est au centre du graphique, qui est en périphérie. On est capable de voir qui a beaucoup de lignes, qui a peu de lignes, donc qui est peu connecté aux autres. Puis je trouve que c'est une approche puis une méthode qui peut être très, très, très technique si on essaie de se la jouer technique. Mais en même temps, la base reste quand même assez simple. C'est qui le point dans le milieu du graphe et qui a le plus de lignes. Et déjà, je te dirais que, un peu comme quand on fait du machine learning, t'es à 95% du chemin. Puis oui, si tu veux faire le dernier 5% est plus douloureux pour arriver avec un outil de classification qui est extrêmement précis. Mais tout le monde est capable, en fait, de faire un petit outil assez facile. Est-ce que c'est un chat ou un chien? Est-ce que cette personne est centrale ou non? Je te dirais qu'on est peut-être au même niveau de complexité. Et si on commence à jouer un peu, à collecter un peu de données de réseau, de les représenter, on est capable de déjà, en fait, voir, OK, voici les questions que je me pose. Est-ce que un réseau pourrait m'aider à y répondre?
Ouais, puis l'usage de visualisation aide énormément à comprendre ou à repérer comme tu mentionnes, le point fort dans le réseau, et donc de guider les dites questions, parce qu'une fois qu'on a ça, on est capable d'aller plus loin. Mais ça revient toujours un peu, comme tu mentionnes, c'est quoi le problème. Et par expérience, moi, peu de gens savent ce qu'ils veulent. Puis, et où ils se perdent un peu, comme tu le mentionnais aussi, en chemin avec trop d'outils, où ils essaient d'aller trop loin pour un peu épater la galerie, en quelque sorte, j'imagine. Ils ne sont pas capables de revenir sur le fondamental de ce qu'il y a en phase 2 et d'aller plus vite. Puis probablement que les graphes doivent peut-être probablement aider à guider la réflexion davantage que nous perdre dans des chemins trop loin, là.
Et je dirais que notre plus gros défi quand on parle de réseau aujourd'hui, c'est malheureusement la puissance computationnelle. J'ai pas encore joué avec les dernières puces d'NVIDIA pour voir à quel point est-ce que ça peut régler tous ces problèmes-là. Mais évidemment, quand on a un graphe où on va avoir, par exemple, 10 000 acteurs, bon ben, ça va être assez difficile de faire du sens dans une image où il y a 10 000 points. Ça devient plus difficile. Il faut peut-être avoir des expériences, des techniques un peu plus sophistiquées pour être capable de vraiment bien communiquer. Il faut voir donc la puissance de calcul qui est requise qu'on arrive dans des gros graphes est quand même significative. Donc, si je te dis, par exemple, dans un graphique, quelle est la distance la plus courte entre deux personnes? Donc, quel est le chemin le plus court? Si je veux que la personne A communique avec la personne B, très facile. Mais on le sait que dans la vie, malheureusement, si je veux t'envoyer promener, par exemple, ben je le ferai pas directement, je vais le dire à quelqu'un qui va le dire à quelqu'un. Et finalement, l'information que je veux t'envoyer promener, on va avoir 5 intermédiaires entre tous les deux. Et donc, de calculer des mesures qui sont vraiment peut-être plus naturelles ou réelles, c'est là où ça devient en fait un jeu qui est plus compliqué et qui demande plus de puissance de calcul pour tenir compte, évidemment, donc de comment est-ce que les réseaux... D'un côté, on a la théorie. Bon, David va envoyer promener quelqu'un, il va lui dire. Mais David le fait peut-être pas toujours directement, donc il faut tenir compte de toutes les alternatives. Et c'est là où ça devient peut-être un peu plus complexe. Mais il y a quand même moyen, je pense, de simplifier les problèmes, d'avoir des réseaux qui sont quand même de taille relativement limitée. Et pour ceux qui veulent se familiariser avec tout ça, il y a plein de façons de le faire. Là, juste le midi, quand vous allez manger en équipe, qui parle avec qui? Déjà, juste dans notre propre équipe. Puis au bout d'une semaine, on a accumulé plein de petits points de qui parlait avec qui. Puis déjà, ça nous permet de se faire un premier réseau puis de se dire, OK, bon, ben on voit que telle personne a de l'air centrale. Finalement, je ne m'attendais pas à ça, mais Louise, c'est celle qui est le plus proche de tout le monde. Puis les réseaux sont vraiment partout autour de nous. Puis après ça, ben c'est juste d'en collecter un peu, les regarder, de faire sa main puis de tester différentes hypothèses.
Tout à fait. Quand on arrive plus dans le monde cyber, pour ça, peut-être plus dans le monde humain, comment on est capable de réussir à faire ou extraire ces informations-là ou mettre en relation ces différents, tu parlais de banque A et banque B notamment, comment on peut arriver justement à établir des relations comme ça ou établir le réseau avec les acteurs qui sont à l'intérieur de ceux-ci pour arriver à des conclusions, notamment comme celle que tu mentionnais?
Ben là, je pense que pour la plupart des gens en cybersécurité, ça va dépasser en fait leur monde. En fait, ça va dépasser les données auxquelles ils ont accès. Bien souvent, moi, j'ai eu la chance de travailler donc avec des compagnies qui vont faire du cyber threat intelligence, qui elles, leur mission, c'est simplement de collecter le plus de données possible en ligne. On voit que les gens utilisent aussi toutes les logs, donc les gens haïssent se promener dans leurs logs bien souvent, mais en regardant dans ces logs, on est aussi capable d'aller chercher beaucoup d'informations, et que ce soit à travers donc des fournisseurs de services, comme justement donc le Cyber Threat Intelligence, ou que ce soit à travers nos logs. Et peut-être une troisième source que moi j'aime beaucoup, c'est les fuites en fait qui viennent du milieu criminel. Les délinquants, on le sait, sont très compétitifs et ils vont se pirater les uns les autres. Ils vont couler en ligne des copies de leur forum, de leur système. On l'a vu aussi, par exemple, des compagnies qui lançaient des attaques par DDoS avec toute leur liste de clients puis de cibles qui ont été publiées en ligne. On trouve une multitude d'informations gratuites, relativement facilement accessibles. Puis à partir de là, c'est assez facile en fait de faire des recherches puis de se dire, bon, ben dans tous les messages sur un forum, je vais prendre par exemple le Fortune 1000, puis je vais regarder qui parle de telle entreprise en me disant que probablement s'il en parle, c'est qu'il y a un intérêt pour l'attaquer s'il mentionne dans un forum de criminels. Et donc, on est capable de faire des liens. Bon, ben OK, telle personne mentionne telle compagnie, probablement qu'elle veut l'attaquer. Et là, OK, qui d'autre mentionne les mêmes compagnies que lui? Donc, on peut, en fait, sans avoir à débourser là, des millions de dollars en Cyber Threat Intelligence, aussi se faire la main puis tester certaines hypothèses puis se demander, OK, est-ce que le nom de ma compagnie est mentionné par qui? Puis est-ce qu'il y en a d'autres dans mon industrie qui ont un profil similaire? Est-ce que nous, on est différents des autres? Toutes ces questions-là, en fait, on peut y répondre avec un après-midi, un peu de Python et probablement une bouteille de vin ou deux pour stimuler la réflexion.
Ouais, c'est important de stimuler la réflexion. Puis justement, ben là, c'est un peu où je m'en allais, c'est comment tu fais pour mâchouiller l'information pour qu'elle soit traitable dans des réseaux, dans des graphes, parce que tu sais, naturellement, du texte libre, c'est très difficile à traiter. Des logs, dans certains cas, on est capable de mettre des clés communes, donc de créer des acteurs dont une adresse IP va devenir un acteur, ou un point de jonction qu'on est capable de faire, puis ensuite d'établir les relations entre les composants. C'est des trucs particuliers que tu utilises ou qui facilitent les choses?
Ça, encore une fois, il y a plein d'algorithmes, puis Python, en fait, est un langage magnifique pour ça, même si je vais toujours rester team PHP, mais bon, faut vivre dans son temps maintenant. Les packages qui sont disponibles sont très faciles à utiliser. On parle de NER, pour reconnaître certaines entités, donc de se dire, bon, ben comment on fait la différence entre Apple, le fruit, puis Apple, la compagnie, bon, ben il y a plein de packages aujourd'hui qui nous permettent de faire la différence entre les deux et donc d'être capable dans un corps de texte, d'être capable de détecter, bon, ben voici des noms d'entreprises, on sait qui a mentionné ces compagnies-là et on le voit de plus en plus même avec les LLM, en fait, d'être capable même d'avoir des informations puis d'avoir des sommaires, en fait, sur ce dont les gens parlent. Donc, les outils sont tous là. On peut garder ça très simple. Faire des recherches simplement. Est-ce que voici une liste de noms d'entreprises? Est-ce qu'ils sont mentionnés? Mais ensuite, si on a un peu plus, disons, de temps et de détermination, on va utiliser donc des LLM, des outils de machine learning ou du NER pour être capable d'identifier certains acteurs puis ensuite les mettre en relation. Et les packages de réseau sont très bien faits, très simples à utiliser. Puis en fait, la base de tout ça, quelque chose d'un peu plus simple, acteur 1, acteur 2, on continue comme ça, une paire par ligne, et on peut en avoir autant qu'on veut. Donc, le format des données puis des choses qu'on veut analyser est un peu plus simple, finalement.
Très intéressant. Moi, ça fait le tour de ma chose là-dessus. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées que t'aimerais discuter?
Oui, ben en fait, on n'a même pas encore parlé de tout le monde fascinant là, de tout ce qui est les attributs des acteurs. Donc, on regarde beaucoup, OK, qui est connecté à qui. On peut même se dire, bon, ben est-ce que ça, c'est un acteur chinois? Est-ce que ça, c'est un acteur russe? Est-ce que ces gens-là sont connectés les uns aux autres? Sur quelle base? On parle beaucoup, en fait, justement, de comment est-ce que les États peuvent collaborer, en fait, pour mener certaines attaques. Bon, ben tout ça, on parle donc d'attributs d'origine. On peut rajouter là, des couches sur toutes ces analyses-là. Et évidemment, j'essaie toujours de garder ça le plus simple possible, mais on voit rapidement qu'on s'imagine que, ah, oui, je préfère regarder où est-ce que les différents acteurs résident, comme qui fait partie de leur réseau personnel et avoir certaines informations qui pourraient être assez intéressantes qui découlent de là. Donc,
Tu parles des attributs. Comment tu utilises, je vais rebondir là-dessus un peu. Comment tu utilises les 10 attributs? Parce que là, tu viens amplifier la valeur d'un acteur dans un réseau en termes de richesse de ces informations. Donc, tu vas créer d'autres réseaux qui vont relier et qui vont mener à d'autres choses.
Le but, souvent, ça va être on va parler d'homophilie. Donc, à quel point est-ce que des réseaux vont être homogènes ou hétérogènes? Puis de se dire, donc, encore une fois, par exemple, dans le cas de pirates informatiques, je vais essayer de connaître dans quel pays ou dans quel fuseau horaire, du moins, ils se trouvent. Puis ensuite, être capable de voir est-ce que les personnes avec qui ils parlent, avec qui ils collaborent, sont dans le même fuseau horaire ou sont dans le même pays que eux. Puis, tu sais, ça peut même être quelle est la langue, tu sais, que la personne utilise. Bon, ben, est-ce qu'il y a des acteurs? Puis moi, ça m'intéresserait, tu sais, dans un forum comme Exploit ou autre, si les acteurs sont capables de communiquer en mandarin, en russe, puis en anglais, c'est comme, OK, ça, c'est peut-être quelqu'un, tu sais, qui a un réseau qui est très hétérogène, très diversifié. Probablement quelqu'un d'intéressant à connaître puis à suivre, versus quelqu'un, tu sais, qui a que des amis russes, qui ne parlent que russe, et donc qui va peut-être être plus difficile à arrêter ou perturber ou du moins enquêter que quelqu'un qui peut être dans plusieurs réseaux à la fois, par exemple.
Ah, ben c'est très intéressant. Justement, ces attributs-là, ben c'est un peu ça où c'était mon intuition, c'est que ces attributs-là peuvent nous mener à un second réseau ou une seconde couche de réseau qui va nous amener sur une réflexion. Tu parlais des différences de langue. Là, tu peux ensuite rétablir ou refaire un autre réseau sur la base des langues. Et ça a peut-être un intérêt plus grand, puisqu'on revient à la question. Ça vient, en ce sens, ça vient changer la question et ça vient nous amener, ou en tout cas, ça change la réponse puis nous amène dans un autre état de réflexion qui va beaucoup plus loin, ce que je peux constater.
Oui, puis après ça, on est capable de prendre tous les gens qui parlent anglais puis les combiner dans un seul acteur, tous ceux qui parlent mandarin, les mettre dans un seul acteur, puis tout d'un coup, en fait, on a un réseau de quelle langue communique avec quelle autre langue, puis on est capable de voir, ah, il y a peut-être des liens forts entre les Russes et les Chinois, des liens forts entre les Portugais puis les Allemands. C'est comme OK. Puis là, on est capable de bâtir un peu une carte de la géopolitique, de la cybersécurité, simplement avec un papier de crayon, un papier, un crayon, puis des petits points et des lignes. Moi, tu vois, encore une fois, ça je trouve ça absolument fascinant.
Ah ben absolument. C'est justement dans le fond, c'est comme tomber dans le trou, puis là, finalement, tu es constamment en train de réenrichir et de retrouver d'autres réseaux et créer d'autres éléments comme ça. C'est que, en ce sens quasi infini dans lequel on peut descendre, on peut creuser. Là, c'est super intéressant. Là.
Tout à fait, tout à fait. Et donc, il faut remonter à la surface de temps en temps, mais disons qu'on profite de chacune de nos plongées d'ici là.
Parfait. Ben merci beaucoup. C'est un bon tour d'horizon de comment ça fonctionne. Ça me donne l'impression qu'on va probablement réaborder le sujet sur un angle peut-être plus. Justement, on va plonger pour prendre ton analogie, puis aller peut-être dans des cas d'études un peu plus spécifiques et plus là, parce que là, on est vraiment dans un état plus général.
Ben, ça me fera plaisir et merci de m'avoir invité à nouveau pour le podcast.
Merci.